Market View, une émission présentée par Laurent Leprévost, directeur général du groupe Babylone.
Amis de la pierre et du cash flow, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin avec non pas le géologue Thierry Juteau, mais avec notre forme de géologue, qui est notre ami Thierry Juteau, qui est directeur du département Capital Market d'Arthur Lloyd. Thierry, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors Thierry, c'est quoi le capital market? C'est pas un peu bizarre comme nom, parce qu'en français, c'est marché des capitaux.
Alors comme Arthur Lloyd est un groupe 100% français, à capitaux français, et dont l'intervention géographique est exclusivement nationale, on va plutôt dire que je suis directeur du département investissement, voilà. Qui est une structure transverse. Ça veut dire quoi une structure transverse? C'est que, en fait, Arthur Lloyd, aujourd'hui, c'est 360 personnes, c'est 70 agences en France. Je crois que notre ADN régional est connu, et j'ai aussi la faiblesse de penser qu'il est reconnu. C'est un groupe qui est présidé par Daniel Dorchy, qui a eu cette vision de bâtir un groupe national avec un maillage régional très fort en 1989. Et donc il a fédéré autour de la marque Arthur Lloyd de grands professionnels dans des marchés parfois peu profonds. Et aujourd'hui, cet ADN Arthur Lloyd est complètement assumé. Donc effectivement, on peut parler d'investissement plus que de capital markets.
Très bien. Merci pour cette mise au point. La France vous en est reconnaissante, Thierry. Alors Thierry, vous avez dans vos veines coule le sang de l'investissement. Vous êtes un grand professionnel de l'immobilier. Vous avez passé 25 ans chez Cushman. Ans, ouais. Encore un nom qui n'est pas français. Bon, peu importe. Et là, vous êtes dans une structure qui nous va bien parce que vous avez un ancrage territorial. Donc, pied dans la glaise, comme on disait juste avant cette interview. Première question. Comment caractérisez-vous aujourd'hui le moment de l'investissement par rapport à cette crise sanitaire? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça ne change pas quelque chose? Déjà, l'état des lieux.
L'état des lieux, il est assez simple. Hein. C'est un peu le carré magique pour moi, si vous voulez. C'est petit 1, les produits corps n'ont jamais été aussi recherchés. Crise ou pas crise. Je crois qu'aujourd'hui, on va sur des compressions de taux où on pourrait presque dire qu'on est en terra incognita. Et ça ne vaut pas seulement sur Paris, ça vaut également dans les grandes métropoles régionales type Lyon. Aujourd'hui, les taux aussi, par exemple, vont se compresser très fort, continuent à se compresser très fortement sur des marchés, des micro-marchés comme celui de la Part-Dieu à Lyon. Ils se compriment aussi dans le domaine de la logistique, où nous sommes un acteur assez dominant en France, équipe animée par Didier Terrier. Et ça, c'est le premier constat. Produits corps qui nécessitent pas de financement. On voit bien, excusez-moi, je vais revenir à mes vieux réflexes d'anglicisme de l'époque Cushman Wakefield, c'est ce que tout le monde appelle le flight to quality. Ce qui est vrai dans l'immobilier aussi, il est vrai sur les marchés financiers. On voit bien aujourd'hui que 22% du CAC 40 est fait avec 4 sociétés du luxe. Bon, voilà. On est un peu dans les mêmes mécaniques. La deuxième chose, c'est que tout investisseur qui n'est pas un equity player, qui est quelqu'un qui n'investit pas à 100% en fonds propres, aujourd'hui se retrouve avec une problématique de financement. Avec trois volets. Le premier, c'est que la quotité de fonds propres qui est demandée, notre activité étant essentiellement une activité de levier, la quotité de fonds propres qui est demandée aujourd'hui, même pour des actifs parisiens, est devenue plus importante. On est passé de ratio de 20-80 à 50-50. Les fonds propres étant rares et chers, c'est quelque chose qui ne peut que poser problème à investisseurs. Les taux demandés le sont également, et les banques, d'une manière générale, demandent que les business plans soient revus de manière beaucoup plus prudentielle. Troisièmement, je crois que face à la défiance du marché du bureau, qui est à la fois un phénomène conjoncturel, mais on ne sait pas trop si le conjoncturel est en train de devenir structurel. Je crois que les investisseurs aujourd'hui sont en pleine réflexion sur leur réallocation d'actifs. C'est-à-dire que si je ne fais pas du bureau, est-ce que je vais faire du commerce? On connaît l'ambiance commerce bashing. Donc, y a une envie d'aller explorer de nouvelles classes d'actifs. On parle, parle du co-living, on voit la résurgence des locaux d'activité qui étaient places d'actifs un petit peu oubliées. On voit aujourd'hui des fonds qui essayent de monter des portefeuilles de locaux d'activité. Donc, le co-living, les résidences gérées, les résidences seniors, les campings. Donc tout le monde essaie de voir comment on peut un peu s'adapter à cette nouvelle donne du marché du bureau.
Et pourtant, Thierry, je vous interromps, pourtant, là, au premier trimestre, on a une caricature des années précédentes. C'est-à-dire que plus de 90% des investissements se sont concentrés sur le bureau, sur des stratégies core. C'est-à-dire que même s'ils cherchent, apparemment, ils n'ont pas trouvé.
Complètement, mais moi, vous savez, les statistiques au trimestre, évidemment, on se prête à l'exercice. On est hors Immostat, mais je crois que l'équipe de recherche de Sevan Torossian fait excellente figure, puisque nos statistiques sont extrêmement approchantes. Et sur le 3,2 milliards de investis au premier trimestre, on peut dire, oui, effectivement, sur 3,2 milliards, on a 3 milliards de bureaux. Donc, ce qui est effectivement un petit peu en contradiction avec ce que je viens de vous dire. Mais après, vous savez, quand sur les 3 milliards, il y a plus de 600 millions qui sont enregistrés sous la transaction Shift, ici les Moulineaux, Unibail, la Française, Primonia, le DF Invest, le deal que nous connaissons tous. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. C'est comme quand on évoque la demande placée au quatrième trimestre 2020 en locatif. Quand on y met 125 000 m² de Link et 90 000 m² de Engie, ça vous décale un peu les chiffres.
Oui, par contre, la tendance n'a quand même pas changé. C'est-à-dire que troisième trimestre, quatrième trimestre 2020, en investissement, il y avait toujours une dominante tertiaire. C'est-à-dire qu'en plein Covid, la demande placée n'a pas attendu le Covid pour régresser. Que les gens l'oublient un petit peu. Ils ne s'intéressent pas à un autre sujet qui la demande déplacée. Quand on voit dans le Grand Ouest comment ça joue, on voit qu'il y a aussi des marchés qui attirent d'autres entreprises. Qu'est-ce que vous conseillez à vos clients, puisque là, vous vous dites finalement, on a du bureau, tout ce qui autrefois était délaissé peut correspondre à des gisiers de valeur et des gisiers de rendement, donc que ce soit le camping, que ce soit les RSS. Vous conseilleriez quoi à vos clients aujourd'hui ?
Je crois que déjà, nos clients, ils ont chacun des stratégies d'investissement qui sont parfois... qui sont différentes les unes des autres. Un fonds à création de valeur n'a pas la même problématique qu'une SCPI. Nous, ce qu'on essaye de faire, si vous voulez, c'est que, tant en Île-de-France qu'en région... on essaie de regarder avec eux les fondamentaux au-delà des idées reçues. Et par exemple, le commerce, de ce point de vue-là, est un excellent exemple. Nous, aujourd'hui, à partir de la structure investissement à Paris, on a énormément d'échanges avec nos bureaux en région sur le marché du commerce, qui est aujourd'hui globalement rejeté.
Vous avez le coup, là.
Mais on voit bien que localement, il y a des investisseurs qui sont souvent des investisseurs régionaux, privés, qui ont de fortes convictions sur certains actifs commerce. Et on traite avec eux, soit en portefeuille, soit en actif unitaire. Et on voit bien que le commerce, quand il est regardé régionalement par des professionnels, qui sont souvent, par exemple, des acteurs de la grande distribution qui ont réinvesti leur fortune dans l'immobilier, on voit bien qu'ils ont des convictions très établies sur le marché du commerce et que le marché du commerce n'est pas à rejeter dans sa globalité. Voilà, parce que le marché est ainsi fait. Il y a des engouements, ensuite il y a des rejets. Et quand il y a des rejets, il y a toujours des investisseurs plus opportunistes que d'autres pour les saisir.
Alors là, on est dans un moment où tous les acteurs communiquent sur la décarbonation des portefeuilles, les démarches éco-responsables, l'économie circulaire, etc., le biosourcé. J'ai pas le sentiment, mais vous allez peut-être me dire l'inverse, que dans les départements capital market de la place, les investisseurs imposent comme cahier des charges des empreintes carbone extrêmement réduites, des capex qui vont viser à ça. D'ailleurs, quand j'interroge les principaux acteurs, c'est très très rare dans les interviews qu'on parle de ça. Et je suis toujours frappé de voir la différence qu'il y a entre tous les acteurs de l'immobilier et puis, je dirais, la puissance publique, les financeurs, le pouvoir législatif qui impose ce rythme. Est-ce que vous conseillez vos clients ou est-ce que vos clients, dans leurs investissements, vont ne pas donner suite à un immeuble qui ne serait pas justement vertueux ?
Alors,
ou est-ce que ça a encore du mal à...
Je crois que pour un investisseur, si vous voulez, la décarbonation, elle a deux axes. Elle a le patrimoine existant, et je ne citerai pas de nom, mais il y a des gros portefeuilles où aujourd'hui les structures d'asset management sont très arc-boutées sur ce sujet qui consiste à verdir leur parc immobilier. Et ce n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande des efforts, qui demande parfois de libérer l'immeuble pour pouvoir le restructurer et le verdir. Donc ça, c'est qu'est-ce que je fais avec mon existant et comment je vais répondre à ces exigences. Et puis ben justement, vous savez, si on fait un parallèle, c'est un peu... Il y a eu pendant très longtemps une certaine catégorie d'investisseurs qui achetaient des lots de copropriété et puis ils se sont battus pour sortir de ces situations-là. Bon, bah, aujourd'hui, ce n'est pas pour en racheter. Là, c'est pareil. Si vous voulez, à partir du moment où vous faites des efforts pour verdir votre patrimoine, quand vous en avez la possibilité, vous allez plutôt aller acheter des immeubles labellisés. Mais comme y a parfois un déséquilibre entre l'offre et la demande, tout le monde ne peut pas être servi dans ce domaine. Mais très clairement, oui, c'est une tendance de fond.
Très bien. Bah, Thierry, merci. Hein, comme toujours, le délai qui nous est imparti est trop court pour faire la revue de tous nos sujets. Donc on a compris qu'Arthur Lloyd, c'est un acteur régional, les pieds dans la glaise, qui a le pouls du commerce. Et notre ami Thierry, naturellement, est toujours à la disposition des investisseurs pour leurs projets. Merci à tous et à très bientôt.
Retrouvez en podcast et téléchargement MarketView sur le site de Radio Immo.